Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie, le groove perdu va commencer, je répète, le groove perdu va commencer.
Fiebre hay.
Salut à vous et bienvenue sur votre radio locale, si vous nous rejoignez à la recherche du groove perdu, session 388, une émission à géométrie variable produite depuis 2011, diffusion radiophonique en mars 2022 sur les ondes de RDWA, Radio Dragon et Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, on démarre un cycle d'émissions sur ce grand rendez-vous de notre démocratie française. Je veux parler bien sûr des élections présidentielles qui auront lieu en avril 2022. C'est le moment privilégié de la rencontre des Français avec leur futur monarque, celui qui décidera avec sa baguette magique de fermer des lits d'hôpitaux, d'emmerder les Français, d'allonger l'âge de départ à la retraite. Bref, celui qui fera la pluie et le beau temps pendant les 5 prochaines années. Prenez vos calepins, notez les dates. Le premier tour aura lieu le dimanche 10 avril 2022. Le second, avec Macron et Le Pen, aura lieu le 24 avril 2022. Et le suspense est insoutenable en France. Les élections présidentielles passionnent les médias à défaut d'intéresser la populace. C'est le spectacle et la mise en scène politique number one. Et c'est pour ça qu'on va en parler pendant ces quelques émissions. Pour la première d'entre elles, on va faire le point sur l'offre politique globale et le système politique qui est le nôtre, avec des questions toutes simples auxquelles on va essayer de répondre. C'est quoi la gauche? C'est quoi la droite? Comment marche notre système politique, notre démocratie représentative? Est-elle en forme, cette démocratie représentative? Est-ce que c'est encore bien utile d'aller voter? Est-ce que des élections libres sont suffisantes pour se considérer en démocratie? Voilà donc le fil rouge du jour. Ou bleu ou vert, ça dépend également de la couleur politique. Il y a officiellement 12 candidats en course. Des candidats venant de la gauche anticapitaliste et productiviste, Artaud et Poutou, des candidats venant de la gauche de gouvernement avec Mélenchon, Roussel, venant du centre mou En Marche qui bouffe à tous les râteliers, du centre mou de gauche pour Bobo des grandes métropoles, Hidalgo, Jadot, de la droite dite républicaine avec Valoche et Jeannot, et enfin de la droite pure et dure, l'extrême droite, comme on l'appelle aussi, avec Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, qu'on peut aussi assimiler à ce courant politique. L'offre semble assez diverse comme ça, et censée représenter toutes les tendances dans la population française. Normal, me direz-vous, on est en démocratie, nous c'est pas comme les Chinois ou les Russes. Nous c'est égalité, liberté, fraternité, et ferme ta gueule parce que on n'est pas en dictature. Le paysage politique tel qu'on connaît, ce clivage droite-gauche, est hérité de la Révolution, comme on va le voir, et même un petit peu avant, au siècle des Lumières, avec les deux visions du monde de deux personnages importants de ce siècle, Voltaire et Rousseau. Petit rappel historique pour démarrer l'émission avec un grand historien, Henri Guillemin. C'est parti pour cette première émission spéciale présidentielle 2022. C'est Kiki qu'on va voter pour. À toutes.
Alors, ces idées, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter aujourd'hui tout ça en détail, mais je vous en donner deux ou trois aperçus. Quelles sont les idées qui ont servi à la préparation spirituelle de la Révolution française? Là-dessus, il y a une tradition, hein, est bien connu. C'est l'encyclopédie, c'est Voltaire et Rousseau, comme on dit. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, vous appelez la chanson de Gavroche dans Les Misérables. C'est un temps du Voltaire-Rousseau. Seulement, ce qu'on ne m'apprenait pas, moi, quand j'étais un petit écolier, j'ai mis beaucoup de temps pour découvrir, c'est l'énorme différence. C'est l'opposition radicale entre Voltaire et Rousseau. Ces deux personnages qui vivent en même temps, mais ce sont des antagonistes, à tout point de vue. Voltaire, par exemple, prenons le point de vue politique. Je crois que je sais par cœur la phrase très précise de Voltaire sur ce qu'il appelle un État bien organisé. Un État bien organisé, dit Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Parce que c'est quand le but de Voltaire, c'est de conserver, comme il le dit, ses gueux ignorants. J'appelle gueux, dit-il, l'homme qui n'a que ses bras pour vivre, et il veut un despotisme éclairé. Un despote absolu, mais éclairé. C'est-à-dire qu'il pensera comme lui, spirituellement. Voilà la politique de Voltaire. Tandis que la politique de Rousseau, ça fait autre chose. Rousseau dit, mais la souveraineté, le pouvoir réside dans la nation, dans le peuple, dans la multitude. Jamais Voltaire n'aurait accepté ça. Voltaire avait besoin, je viens de vous le dire, des gueux. Rousseau est quelqu'un qui dit l'origine des grandes fortunes est presque toujours une origine scandaleuse. Rousseau est quelqu'un qui s'aperçoit que la France se divise entre deux groupes. Il y a les mangeurs d'un côté, il y a les mangés de l'autre. Il y a environ 500 000, même pas mangeurs, et puis il y a 24 millions de mangés. Et Rousseau est quelqu'un qui appelle les mangés à se défendre. Opposition absolue. Sur le plan religieux, encore davantage, c'est avec Voltaire, sa grande préoccupation, c'est d'évincer le christianisme. Un point même extraordinaire, puisque dans une lettre à D'Alembert, je crois, il lui dit « Vous ne croyez pas que cinq ou six hommes bien nés, hommes de qualité, cinq ou six hommes bien nés qui s'entendent, seraient capables de réussir là où autrefois 12 faquins ont réussi. Que c'est les 12 faquins? C'est les 12 apôtres. Et cinq ou six hommes bien nés et qui s'entendent, c'est les encyclopédistes. Donc Voltaire, carrément, veut extirper le christianisme. Le président Hénault lui disait en souriant un jour, en fait, tout de même, monsieur Voltaire, vous ne pensez pas que vous allez réussir à en venir à bout du christianisme? Si, dit Voltaire. Et c'est ce que nous verrons. Voilà la position religieuse de Voltaire. Tandis qu'en face, vous avez un Jean-Jacques Rousseau qui écrit la phrase suivante, dès 1751. Il n'y a qu'un livre qui soit nécessaire, et c'est l'Évangile. Le même Rousseau est quelqu'un qui dit, si la vie et la mort de Socrate furent d'un sage, la vie et la mort de Jésus furent d'un dieu. C'est une phrase inexpiable au XVIIIe siècle. Et j'ai vu à la Bibliothèque nationale, cabinet des estampes, une gravure très intéressante dont je vais vous parler, qui est 1780. Et en 1780, un dessinateur dont j'ai oublié le nom représente ceci. Une énorme croix, hein, calvaire, quoi. On achetait un lasso au-dessus de ce calvaire. Puis il y a des types qui tirent pour le renverser. Et le calvaire commence à tomber. Le grand crucifix tombe. Et ceux qui tirent, bon, on les reconnaît, c'est Voltaire, c'est D'Alembert, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est l'encyclopédie. Et puis vous avez un petit bonhomme, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui est là appuyé contre la croix pour essayer de la soutenir, pour empêcher qu'elle tombe. Opposition radicale, dont nos maîtres ne nous parlaient pas parce qu'il ne s'agissait pas que nous sachions trop pourquoi ils étaient opposés. Donc, à travers le 19e siècle, le 18e siècle, dans la préparation spirituelle de la Révolution française, il y a deux courants radicalement antagonistes. Vous avez d'un côté l'encyclopédie. L'encyclopédie qui s'acharne à la destruction du christianisme sous un prétexte de tolérance. La tolérance de Voltaire, on sait ce que c'est. L'abbé Galliani, son ami, dans une phrase que j'ai recopiée là, disait « Il faut prêcher la tolérance aux princes assez naïfs pour nous écouter et quand nous serons libres et les plus forts, nous écraserons nos adversaires. » Ça, c'est un état d'esprit que vous allez retrouver dans la Constituante. Tandis qu'avec Jean-Jacques Rousseau, dont l'influence n'apparaît qu'avec Robespierre, c'est-à-dire à partir de la République, avec 92, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ces deux courants-là vont donner, à l'intérieur du XVIIIe siècle, deux mouvements de pensée. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les sociétés de pensée. D'autre part, vous avez un certain nombre de petits écrivains assez obscurs qui sont dans la tradition Rousseau. Vous avez, ce qui est très curieux, ce qu'on ne sait pas, c'est une des découvertes que j'ai faites, un très grand nombre de curés de campagne qui sont des passionnés de Jean-Jacques Rousseau, qui vivent avec le peuple, qui connaissent la détresse du peuple, qui vont pousser le peuple à la revendication. À ce point même qu'un aristocrate célèbre de 1889, parlant de la Révolution, dira « C'est ces foutus curés qui ont tout fait ». Alors d'un côté, vous avez les riches, les gens installés, qui sont voltairiens, puis de l'autre côté, vous avez une certaine masse de petits peuples, de gens qui soutiennent le petit peuple, qui sont des gens pour Rousseau.
Hypocrites de cato, ils se disputent des miettes quand ils ont déjà le gâteau. Prêts à fondre l'argent des couverts et du plateau, à mépriser le mérite en usant du réseau.
à gauche.
Des pseudo-défenseurs de valeurs humaines, du dialogue avec des oreilles farcites, ces rumaines et leur morale de pater, à gerber par terre, pousse un socialiste à gaver des charters.
À droite.
On oublie les complexes et on étale sa fortune. On n'est rien sans Rolex, sans maîtresse, sans costume. Ça capitalise en attendant la chute d'un allié, en saluant son cadavre avant de le dépouiller.
À gauche.
Des pistes froides échaudées perdues dans les discours qui confondent engagement avec appel au secours. Ça se trimballe en boubou et ça joue du djembé. Ça aime l'exotique mais pas vraiment l'étranger.
À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Quand même du centre ils sont du milieu, tu choisis le moins pire à défaut de mieux.
À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Une caste nous dirige, c'est caricatural, mais j'ai quand même brûlé ma carte électorale.
À droite.
Ça parle de drapeau, de nation et de patrie, avec tant de ferveur que ça sent les latrines. Ça s'assoit sur des pierres, n'aime pas quand ça change, ou quand des idées neuves provoquent le mélange.
À gauche.
Ça cause de respect, mais surtout pas d'estime. Un jour c'est Israël, le lendemain c'est Palestine. Ça sent coupable, alors ça fait du zèle. Ça commet l'adultère, mais en gâtant la demoiselle.
À droite.
Ça ne connaît que la culture française, monsieur, la gastronomie et Mireille Mathieu. On rassure l'électorat avec des uniformes. Ça commet l'adultère et ça rentre chez Bobon.
À gauche.
Ça subventionne du hip-hop. Ça repeint les façades pour faire un peu plus propre. Compatit à la détresse mais jamais ne comprend pourquoi leur démagogie ne dupe plus les gens.
À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Quand même du centre, ils sont du milieu. Tu choisis le moins pire à défaut de mieux.
À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Une caste nous dirige, c'est caricatural, mais j'ai quand même brûlé ma carte électorale.
À droite.
Ça dit qu'il n'y a rien de mal à l'homophobie, qui n'est sorti que du bon du temps des colonies. Qu'un pays fondateur mérite ses richesses. Ça n'a pas de parole, ça n'a que des promesses.
À gauche.
Ça parle de famille, de lutte, d'ouvriers, sans connaître le prix du pain ou d'un loyer. Ça te fait la leçon sur l'effort consenti d'une maison dont tes impôts ont payé le crédit.
À droite.
Ça sort de l'ENA ou d'HEC, ça a soit de pouvoir d'un siège à l'Assemblée, alors ça va où souffle le vent.
Le clivage droite-gauche est donc hérité du siècle des Lumières, comme nous le démontre habilement Henri Guillemin, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Ces deux visions du monde et de la chose politique, celle de Voltaire et celle de Rousseau, sont les premières bases des grands courants politiques que l'on traduit aujourd'hui par droite et gauche. Le premier ne croit pas que le peuple puisse prendre des décisions, trop occupé à ses basses besognes. Le second croit au contraire que seul le peuple pourra écrire une constitution qui lui ressemble. La première assemblée voit le jour en août 1789 et avec elle les prémices de l'échiquier politique tel qu'on connaît aujourd'hui. Autre petit rappel historique signé Arte dans la série Carambolage. On écoutera ensuite Didier Super. C'est parti.
Susanne Staub de Rüsselsheim nous pose la question suivante. Une de mes connaissances affirmait récemment que les adjectifs « droite » et « gauche » que l'on utilise pour exprimer les tendances politiques sont apparus pour la première fois en France. Est-ce vrai ? Nous avons demandé à Franck Grenier, professeur d'histoire, de répondre à la question de notre téléspectatrice.
Votre ami a raison. Le partage de l'échiquier politique avec la droite d'un côté et la gauche de l'autre est effectivement un héritage de la Révolution française. Vous le savez peut-être, en juin 1789, les Français instaurent leur toute première Assemblée nationale. Dans cette Assemblée, le système des partis tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Il a fallu attendre la séance de l'Assemblée nationale constituante du 28 août et le vote sur les pouvoirs accordés au roi pour que se dessinent deux camps. Certains députés réclamaient un droit de veto absolu pour le monarque. Les autres étaient partisans d'un contrôle accru par le peuple. Lors du décompte des voix, les royalistes se sont regroupés à la droite du président de l'Assemblée. Les partisans d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais se sont placés à sa gauche. Vous imaginez peut-être que c'est le fruit du hasard si tel bloc s'est retrouvé à droite et tel autre à gauche. Que nenni ! Déjà dans l'Antiquité, la place à la droite de l'hôte est la place d'honneur de l'invité. Dans la Bible, c'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Et comme le roi dans la monarchie de droit divin est le représentant de Dieu sur terre, les places à la droite du roi sont forcément des places d'honneur. C'est donc tout naturellement que les députés qui soutenaient la monarchie se sont appropriés les places du côté droit. C'est vrai, la distinction s'est affinée avec le temps, et les termes de centre, centre-droit, centre-gauche, extrême-gauche et extrême-droite ont fait leur apparition. Ce modèle a fini par être repris au fil du XIXe siècle dans presque tous les autres pays européens. Et il est toujours en vigueur aujourd'hui, moyennant quelques adaptations ici ou là. Sur ces graphiques, on voit comment se répartissent les groupes politiques au Bundestag et à l'Assemblée nationale française. Il y a cependant une exception en Europe. À la Chambre des communes, l'une des deux chambres du Parlement britannique, le parti au gouvernement siège toujours à la droite du Speaker, représentant symbolique de la reine, tandis que l'opposition est à gauche. Quand les rapports de force s'inversent, on change de côté. Une fois de plus, on peut le vérifier, les Anglais ne font jamais rien comme les autres. J'espère que votre téléspectatrice sera satisfaite de cette réponse.
À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir et sûrement on en aura une.
Ah non ! Ah ouais, d'accord, ouais.
À droite, on s'en fout d'être malheureux. L'important c'est d'être riche. À gauche, nous on s'en fout du fric. L'important c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs. Tant mieux comme ça, à gauche, bah nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos. Parce que pour nous, l'écologie, en fait, c'est juste un parti de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4. Par contre, on peut pas dire, nous, on soutient les écolos puisqu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants.
Eh, vas-y, gros, fais chanter ta mère.
À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains...
Une autre vision de ce clivage droite-gauche maintenant avec l'historien et philosophe Marcel Gauchet. Il introduit ici en relation avec les notions de droite-gauche celles de progressiste et de conservateur. Il ajoute également un autre courant, celui des libéraux qui dominent aujourd'hui le débat politique, qui peuvent s'allier de manière indifférenciée en fonction des enjeux électoraux et des jeux d'influence aux uns et aux autres, droite, gauche et centre mou, on avance dans la complexité, Marcel Gauchet.
Qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? C'est une fausse opposition. Et c'est de là qu'il faut partir pour bien comprendre ce qui se passe. La droite et la gauche, c'est devenu notre clivage majeur parce que c'est la manière de simplifier des clivages beaucoup plus complexes. En réalité, il n'y a pas deux forces en présence, mais au moins trois. Et je parle là des forces fondamentales, je ne parle pas des partis qui peuvent être très nombreux. Un courant conservateur, un courant libéral et un courant... disons socialiste, progressiste, mais il y a une gauche et une droite parce qu'il faut ramener cette tripartition qui est le minimum de la division des opinions à une dualité qui permet de faire fonctionner un gouvernement démocratique fondé sur l'alternance entre une majorité et une opposition. On a en fait dans la droite et dans la gauche un facteur d'instabilité qui est ce jeu permanent où tantôt le groupe central, qui est celui des libéraux, s'allie avec les conservateurs, tantôt il s'allie avec les progressistes ou les socialistes. Mais on n'est pas dans quelque chose de figé, mais dans quelque chose qui non seulement se transforme avec l'histoire, mais de totalement instable. le rôle des extrêmes est capital, car c'est de leur côté que se forgent les identités les plus caractérisées. D'une gauche vraiment de gauche, d'une droite qui serait vraiment de droite. On entend ces propos-là tous les jours. Et ils ont un rôle très important pour marquer une dichotomie qui tend à s'affaisser de temps en temps. Le centre a toujours eu un problème qui est précisément d'être au centre, donc d'être contesté des deux côtés, ce qui est plus difficile, évidemment, que lorsqu'on est dans un jeu frontal. Le clivage gauche-droite reste très ancré au niveau des personnes qui se définissent très volontiers en termes de droite ou de gauche quand on leur parle de leurs orientations politiques. Mais en revanche, ce n'est plus ce clivage qu'ils ressentent très bien qui oriente leurs choix électoraux. Des gens de droite votent à gauche pour des raisons qu'ils estiment être de droite, et l'inverse. L'acte de vote lui-même, c'est beaucoup compliqué. Car on vote pour plusieurs raisons différentes et pour des motivations qui peuvent être assez éloignées. Il y a un vote par tradition. On vote comme ses parents, qui votaient eux-mêmes pour leurs parents. Il y a un vote de personnalisation. Le critère qui compte, c'est la personne des gens qu'on désigne. Et au niveau local, c'est très important, mais au niveau national, ça fonctionne aussi. Et puis, il y a un vote tactique. Des gens qui pensent que leur vote sera plus utile dans telle configuration pour éliminer tel candidat ou pousser tel autre, éventuellement pousser tel autre aux dépens du candidat principal qu'on veut éliminer, les électeurs deviennent de plus en plus stratèges. Le changement fondamental que nous vivons, c'est l'intégration du pluralisme dans la conscience des citoyens. On est obligé de reconnaître, malgré soi, que tout n'est pas absurde dans ce que dit la gauche, si on est de droite, et que tout n'est pas insupportable à droite si on est de gauche. C'est ça qui, aujourd'hui, modifie considérablement le rendement électoral de cette opposition. Elle reste organisatrice, mais elle n'a plus la même force de mobilisation, puisque, bien sûr, elle est moins passionnelle. Et je crois, par exemple, pour prendre l'actualité, que l'homme qui a très bien saisi cette nouveauté, c'est Emmanuel Macron, qui a réussi, effectivement, ce qui n'était pas une petite affaire en réalité, à fédérer. Est-ce que pour autant il a apaisé le clivage dans les profondeurs? Je ne crois pas. Parce qu'une chose est de dire qu'il faut prendre à droite et prendre à gauche, autre chose est de l'articuler dans une politique cohérente. Et c'est sur ce point que nous n'en sommes qu'au début d'un long parcours avant d'arriver à une formule de compromis qui satisfasse tout le monde.
Qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté, qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté. Je dis ma gratitude aux Françaises et aux Français. Je dis ma confiance aux Françaises et aux Français. Je dis ma responsabilité aux Françaises et aux Français. Je dis l'immense joie aux Françaises et aux Français. Je dis ma méthode aux Françaises et aux Français. Je dis ma démarche aux Françaises et aux Français. Qu'ils sachent ma joie. Qu'il sache ma fierté, qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté.
Voilà, on a planté le décor idéologique très grossièrement. La droite et la gauche, Si vous avez bien compris, c'est pas la même différence. Et puis, il y a ceux qui mettent tout le monde d'accord. Le centre, Pompidou, Giscard pour les plus anciens. Bayrou et Macron pour les plus récents. Comme le clivage droite-gauche, le fonctionnement de notre démocratie dite représentative va se dessiner pendant cette période charnière de la Révolution française. Encore elle, 1789-1794, 5 ans qui vont tout changer, en apparence au moins, car dans les faits, une caste va remplacer une autre aux commandes. Exit les nobles, quick quick la tête-tête des aristos, et bienvenue aux bourgeois, c'est la bourgeoisie qui va être la grande gagnante de cette révolution. Premier extrait d'un documentaire qui s'intitule « J'irai pas voter ». Il y aura ensuite Damon One, membre de la mafia Kefri, avec président. C'est parti.
Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre la naissance de notre système politique. Un peu moins quand même. 1789, la célèbre Révolution française. Affamé et excédé par un roi qui le méprise, le peuple français se révolte. C'est la fameuse prise de la Bastille. Le roi battu, les révolutionnaires prennent le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire de France. Après plus de 1300 ans de monarchie, le peuple va décider lui-même de son organisation politique. C'est beau. Enfin, pas tant que ça. Je vous explique. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Mais le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie made in noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. En vain. Vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique.
Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe, dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres, et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eu les révolutionnaires anglais et américains et français à la fin du XVIIIe siècle.
Du coup, on voit bien que ce système est en crise. Je pense comme Rousseau, que la démocratie représentative est une contradiction et que donc elle se retourne contre l'idée même de démocratie.
Contrairement à l'abbé Seyès, le philosophe Jean-Jacques Rousseau pense que la représentation organise une séparation entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les politiciens, et le reste de la population. Il considère la représentation comme oligarchique et préfère la démocratie directe. Le peuple ne peut avoir de représentants parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes et qu'ils ne forceront point les particuliers d'obéir en son nom à des ordres qu'il n'a ni donné ni voulu donner. Malgré son analyse, la révolution donnera naissance à la représentation. C'est bien l'abbé Seyès qui dictera les réformes politiques.
Très clairement, le vote, c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important.
L'acte électoral est par essence démocratique, mais si cet acte électoral est conçu comme une délégation de pouvoir à des représentants qui ensuite dirigeront sans consultation du peuple, c'est vrai que cet acte électoral est perçu comme une perte de souveraineté.
Je m'enlise dans toutes les villes, j'en ai marre d'être maire. Il me faut toutes les voies, et même celles des chemins de fer. Pour ma campagne, j'ai sillonné la France avec mon autocar, merci Marianne pour les vacances. J'ai fait des t-shirts à mon effigie. J'ai les macarons et les bons d'achat chez Tati, chez Tati. Votez pour moi et vous paierez pas d'impôts. Si jamais je suis élu à toute la France, je paye un pot à la Chambre des députés, surréputé pour ma tchatch. Dans les commissions d'enquête et les preuves, toujours je les cache. Dans toutes mes affaires, sans trop de mal, je m'en sens blanchi. Je suis bien entouré, j'arrose tout le monde dans le parti. Électeur et électrice, je dirais au ministre, j'ai l'intention d'augmenter les effectifs de la police. L'insécurité, c'est mon cheval de bataille. D'après les sondages, personne n'est de taille.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité et vive la France.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité et vive la France. Mon programme électoral est simple. Fini le chômage pour la victoire, je propose un aller simple. Si on a pour deux, t'inquiète, camarade, y'en a aussi pour 5. 20 ans de carrière, jamais personne m'a pris les mains dans le sac ou mis les passes. Mes rivaux ne font pas le poids, j'ai des contacts chez les médias. Moins d'une semaine avant le scrutin, je vais leur casser leur baraka. Je fais attention à mon image, je suis la star des bistrots du village. En ce moment, je fais des meetings, je suis en pleine campagne d'affichage. Je suis bronzé de bonne humeur, je reviens des tom-tom. Demande ce que tu veux, n'aie pas peur, après vol, je te le donne. Moi, ça me dérange pas de faire le bénévole au resto du cœur. Ça prendra une heure, c'est la pêche aux électeurs. Je maîtrise la langue de bois, je fais la personne de bonne foi. Je fais la bise aux enfants dès que je vois la caméra. Avec mon slogan à l'écran et mon petit conseil du jour, tournez des restaurants, rendez-vous au deuxième tour.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité et vive la France.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité et vive la France. Au QG tous réunis, dans l'attente des résultats. Soudain ma photo apparaît, applaudissements suivi de joie. Mes adversaires me félicitent, les journalistes me sollicitent. Dans mon discours, j'ai commis, pas mettre les pieds dans l'hélice. Je cite, un vote ça n'a pas de prix, c'est la mairie qui me l'a appris. Les électeurs n'ont pas compris, quand j'ai acheté ma Ferrari. J'ai les syndicats au cul, ils veulent me prendre tout ce qui m'est dû. Des billes de courrier j'ai reçu, c'est mon pistolet qui les a lus. Ils veulent descendre dans la rue, parce qu'ils m'ont vu dans entrevue. Sur trois pages, parce que mon chalet en suit, j'ai entretenu. Je suis en 607 blindés, escorté gros cylindré à l'Assemblée. J'ai la majorité des députés pour me ressembler, pour savoir jouer la comédie, j'endors le peuple. Moi je dis jamais non, je dis toujours oui. Oui, faut pas m'en vouloir, c'est la jalousie, je m'en vais attiser. J'ai réservé une suite pour 5 ans à l'Elysée.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité et vive la France.
Votez pour moi
si tu veux la tour Eiffel près de chez toi.
Votez pour moi
si tu veux de l'argent, croisant les bras.
Votez pour moi,
les billets sont à l'œil, prends des vacances. Liberté, égalité, fraternité.
Je tenais à remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Merci. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vous ne serez pas déçus. Votez pour moi. Votez pour José, pour tes petits conseils éclairés.
Merci José.
Nathalie.
Nathalie
Discours. Rachid pour l'affichage sauvage. Bien.
Votez
Rachid. Et surtout, n'oubliez pas pour les prochaines élections. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi.
À la recherche du groupe perdu, session 388, on est en mars 2022 et c'est la première émission sur les futures élections présidentielles qui auront lieu les 10 avril pour le premier tour et 24 avril pour le second, un cycle où on saura tous ces qui qu'on va voter pour, la différence entre la droite et la gauche, qui sont les méchants, les gentils. Bref, on saura tout pour mettre le bulletin dans la boîte en toute connaissance de cause. Pour cette première émission, on s'attache à définir, à poser les bases de ce qui régit notre système politique, les différents courants idéologiques dominants, droite, gauche, libéraux, et puis les autres, les extrémistes. Et puis, on s'attache aussi à comprendre les rouages du fonctionnement de notre démocratie dite représentative, où des membres issus de la bourgeoisie essaient de s'identifier et de parler au nom du peuple à la populace, populace dont elle ne connaît que très peu le quotidien et les préoccupations, puisque nos élus gravitent dans d'autres sphères sociales. Régulièrement, on élit nos représentants, les élections municipales, les départementales, les régionales, les européennes et puis surtout les présidentielles. C'est comme ça que ça marche. Et pour que ça marche, pour légitimer tout ça, et bah, il faut voter. Il faut voter, bordel, et participer à ce grand bal politico-médiatique. Sinon, t'as pas bien compris qu'on est en démocratie et que des gens se sont battus pour ça. Sortez les mouchoirs, essuyez vos larmes républicaines. C'est parti pour le grand show des élections. On se retrouve dans une bonne dizaine de minutes. À tout à l'heure.
Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections législatives. Pour ce scrutin particulièrement important, vous ne pouvez pas vous abstenir.
Il faut voter. Seul moyen d'expression. Alors les pouvoirs publics organisent des campagnes publicitaires.
Et pourquoi pas Paul ?
Oui, Paul, c'est très bien.
Non, Jean, c'est mieux.
C'est pas terrible, Jean.
Jean, c'est pas si mal.
Paul.
Jean-Paul. Va pour Jean-Paul.
L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas, le vote n'est pas le fondement de la démocratie, juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir, dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Écoutons Alain Badiou, philosophe, face à un journaliste.
Est-ce que vous réalisez juste, Alain Badiou, vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870? Des gens y croyaient à ces choses-là.
Mais bien sûr.
Ils sont morts pour avoir le droit de voter.
Mais évidemment. Et je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. Hein, d'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout.
Il ne suffit pas de dire qu'on a un suffrage universel pour dire qu'on est en démocratie. Et ce qui manque à l'Occident, c'est un nouvel idéal démocratique dans le sillon des Lumières qui porterait une espérance. Or aujourd'hui, la démocratie, c'est devenu un régime très conservateur.
Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus. Ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection.
Parce que c'est vrai que son trait le plus flagrant à cette démocratie, c'est que les décisions sont prises par un ensemble de gens qui, en général, sont dans des sphères, dans le haut, on va dire, des pyramides économiques, médiatiques ou politiques. C'est là que les choses se passent en général.
Il est clair qu'aujourd'hui, l'argent joue un rôle de plus en plus important dans la démocratie. On voit dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la démocratie américaine, qu'il faut être riche pour se faire élire. C'est ce qu'ils appellent les deep pockets, les poches profondes. Aujourd'hui, les candidats doivent pouvoir mobiliser des moyens financiers importants. Et donc, du coup, ceux qui sont capables de financer ces élections ont une voix prépondérante dans la politique américaine. Donc ça, c'est un premier point. L'argent est corrupteur des démocraties et est aujourd'hui en train de les, clairement, de les désubstantialiser, de les dévitaliser.
Moi, si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. J'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je ferais de temps.
Si j'étais
premier ouvrier, à dormir à l'Élysée. Le garantie qu'à l'Assemblée, j'aurais des gueules plus colorées. J'étais chef du FMI, on plaiderait le RMI. J'aurais fait les poches à Rothschild. Pour tout donner au bidonville. Et mon frère, si j'avais contrôlé Wall Street, t'aurais peut-être gardé ton fric. Mais les temps changent, maintenant les banques font des holds. Et j'aurais fait l'humanitaire.
l'on garde, garde les mêmes salaires. Les mêmes salaires en CFA. Moi si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. Si j'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je fais de temps.
Si j'étais président,
moi si j'étais présentateur,
si j'étais présentateur,
vous voyez ma gueule aux 20h. J'aurais plus parlé du Darfour,
plus parlé du Darfour,
que d'Ingrid Betancourt. Et dans ta classe de 25, en cours de lettres appliquées, on parlerait pas du passé simple,
non, non,
mais plutôt le futur compliqué. J'suis ni à gauche, j'suis ni à droite, j'suis juste un gars d'en bas. Le seul parti qu'aurait ma carte, c'est celui qui marche droit. J'm'en fous d'identité française, on est tous de la race humaine. De toute façon, j'aime pas la Marseillaise.
J'aime pas la Marseillaise.
Moi, j'préfère la Colombienne. Moi, si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, j'crois qu'il m'aurait buté.
Voilà. La nature, elle est bon copain. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Oh, putain, ça brûle. Le sifflard, j'suis OK. Le pinard?
Ouais.
Si, on est d'accord. Et tout ça, c'est dans le prospectus que vous jetez dans vos chiottes. Alors, votez pour nous. Barbecue pour tous.
C'était un message de Nature et Chasseur.
Française, Français. Pour l'échéance politique à venir, le Front français propose un programme simple. Petit 1, durcissement des contrôles aux frontières. Petit 2, révision de certaines lois. Et petit... Putain, les gars, je les vois, vos sous-titres, merde!
C'était un message du Front français.
Française, Français, je ne vous ai pas compris.
C'était un message du Parti de la Vérité.
Moi, bon, sécurité, bien sûr, sécurité, t'as un fou, quoi. Le jour, je t'abastille pour manger une crêpe et essayer de canner une meuf, t'as. Et là, y'a un mec qui me dit, ouais, dans mon crew, fais taper ta crêpe. C'est parti en sucette, des ouf, frère! Tu peux faire une dédicace vite fait, non?
Vous avez vu? La France a peur. La France n'en peut plus. J'ai mal à ma France. Alors arrêtons cette violence. Et virons ces petites salopes de ce gauche à coups de Kalachnikov.
C'était un message de l'UM droite.
Allez! Hé, hey, demain on va pas assembler. On va regarder Les Anges à la Téléréalité saison 4.
Vous n'aviez pas un pantalon en arrivant?
Oh putain, je suis cul nu.
Ouais, c'est très gênant.
Oh, je suis cul nu.
Ouais.
Voilà. J'ai mal à ma République.
Alors, c'est qui les petites salopes?
C'était un message du Parti Social-Gauche.
Non mais les gars, je veux bien qu'on blague, mais merde, y a des limites quand même. Oh, oh. Bon, je reprends. La France a besoin d'un grand parti à sa tête. Et d'un leader. Une femme. Droite. Qui porte haut les valeurs de la France. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais putain, mais rangez ça, bande d'enculés, là! Ouais, vous décollez ou quoi?
C'était encore un message du Front français.
Nous, on n'est pas à gauche. On n'est pas à droite non plus. On est pile! Pile, 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 pile au milieu! J'appelle tous les extrêmes centristes à une manifestation pacifique pour tout casser! On brûlera des voitures! Et on les rachètera après!
C'était un message du parti d'extrême centre.
Si j'étais président de la République.
C'était un message de Gérard Lenormand.
J'ai pas trouvé. Donne-moi le pantalon.
Ben non.
Je suis député. Du DIEP.
J'en ai marre, toujours moi.
Et en plus j'ai envie de pisser, on se magne.
Voilà. Non seulement j'ai mal à ma République, mais j'ai aussi son Freud.
Et ça c'est un message de ma droite, connard.
C'était un message du Parti Social-Gauche avec en guest l'UM droite.
Tu veux rejoindre le Parti de l'avenir? Rejoins le Parti très gauche. On a un site 3615 très gauche.
C'était un message du parti très gauche.
On va tout péter, on en peut plus. Putain, révolution.
Stéphane, ne tournez pas là.
Mince.
C'était un message du parti anarchiste.
Tintin à la police et Picsou aux finances.
C'était encore un message de Gérard Lenormand.
Crise, insécurité, logement...
Michel,
ouais. Ah, que oui, je viens.
C'était un message du parti Remise.
Émini à la danse.
C'était toujours un message de Gérard Lenormand.
C'est bien cadré?
C'était un message du Front de Gauche. C'était un message du Parti Parti.
Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique.
8 heures, les premiers clients arrivent au marché de Blégny-sur-Orge. Et les militants de Écologie Future sont déjà sur le pied de guerre en attendant leur candidat, Éric Fougère.
Bonjour, monsieur Fougère.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, il y a un ring droite, hein, Blégny-sur-Orge va devenir écolo.
On tracte.
Ouais, alors non, justement, je me disais que concernant les tracts, on arrête. Parce que comme les gens les jettent par terre, c'est contraire à mon programme. Voilà, on arrête.
Oui. Du coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut se rattraper cet après-midi avec l'affichage, on va coller partout.
Et non. Parce que j'ai vu que dans la colle, il y avait un agent chimique, et ça, c'est contraire à mon programme. Mais on va... Allez.
Nos méthodes pour convaincre. Écoutez, c'est très simple. Moi, je veux juste faire connaître le programme d'Écologie Future sans être contraire à mon programme.
Et justement, on s'était dit que pour faire connaître le programme, on pouvait aller de marché en marché.
Et non. Car ce matin, j'ai eu un problème avec ma bagnole. Alors, figurez-vous que j'ai pris celle de mon épouse et c'est un diesel. Et ça, c'est...
T'es chiant ?
Non, c'est...
Contraire à votre programme.
Allez, faut pas mollir. On va au melon.
9h. Il est maintenant temps pour les candidats d'engager le dialogue avec les électeurs. Mais comment faire quand son image est ternie par les scandales, à l'image du maire sortant de Blégny-sur-Orge, Renaud Planchard?
Alors, bonjour madame. Dis donc, ils sont beaux vos les pamplemousses là. Allez, on fait quoi? On prend la rue Émile Zola?
Non, est-il brillant, c'est bien.
Non, le commissariat là-bas, ça ne mange pas du tout.
Émile Zola.
Oh, les tournesols là-bas, le soleil dans la maison. Bonjour monsieur.
Écoutez, non, je n'ai pas honte de me représenter, d'autant plus que le juge n'a pas encore tranché. En ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange avec mes concitoyens qui me soutiennent tous.
Bravo. Nous, on vous aime beaucoup, les retraités.
Merci. Vous voyez, ils m'adorent.
Ah. Nous, les mères de famille, on est vraiment derrière vous.
Oh, merci. Jamais un maire n'a autant fédéré. Eh oui.
Nous, pendant les opérations, oui, on ne parle que de vous.
Formidable.
Nous, la mixité, on se sent intégré avec vous.
Ah, merci, madame. Merci beaucoup. Ah, ça, je suis soutenu de tous bords.
Monsieur le maire, pour tout ce que vous faites sur l'intercommunalité.
Oh, la vérité ne sortirait-elle pas de la bouche des enfants? Merci, mon chaton. Vous voyez? J'ai vraiment...
Et nous, les Avengers, on a décidé...
Putain, Robin Castan, on avait dit non, merde.
10h. C'est au tour du candidat du Front français, Jean-Yves Ménil, de se mêler à la foule.
Le Front français, messieurs dames, pour une France propre, une France pure, une France soudée, où on parlerait que d'une seule voix. Bonjour, monsieur, je suis Jean-Yves... Le Front français, une France...
Envoyez les mails à ZAP. Brio à 15h, débrief au QG à 16h et apéro à 17h.
11h. Ça marche. Étienne Martin, le candidat de la République Ça Marche, fait son entrée.
Vous allez commencer par les one-to-one à la charcute. Ensuite, vous emmenez les électeurs step by step au touchpoint, à la fromagerie. Ça marche?
Ça roule. Ça marche.
Écoutez, non, je dirais que nous n'avons pas de méthode particulière à la République Ça Marche. Nous sommes surtout
à l'écoute du citoyen.
Il faut faire quelque chose pour la sécurité.
Hein. Oui, ça marche. Il faut être attentif.
Et surtout, arrêter de taxer les
petits. Ça marche. Il faut entendre les revendications. Ça marche. Et à ce moment-là, nous serons là pour y répondre.
Je vais me taper votre femme, je reviens.
Oui, ça marche. Et ensuite, nous verrons un vrai résultat dans cette mairie. Voilà.
J'y vais avec des potes. Hein.
Ça marche. Allez-y avec des potes.
13h. Un à un, les commerçants quittent le marché. mais les candidats se retrouvent pour faire le bilan de cette matinée malgré leurs divergences politiques.
Écoute, ce qu'on fait, c'est que tu me laisses passer, et je fais toi mon adjoint.
On va pas se faire chier.
Ah oui, oui c'est oui. Vrai qu'on est des ennemis politiques, mais ça nous empêche pas de voilà. De, ouais, de le plus important, c'est Blény-sur-Orge.
Blény-sur-Orge.
Et ses habitants, les Blénois, les Georgelais.
Les Blégorgeois.
Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche.
La politique, ça t'intéresse, le sort des Français en aimant. Tu as lu un jour dans la presse un truc très très intéressant. Et même si tu ne t'en souviens plus, tu es vraiment très convaincant. Ah ça y est, tu m'as convaincu, la politique c'est important. Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes pour le jazz manouche. Tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire. Tu votes facho, tu votes sarco. Tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes Le Pen, tu votes tout mou, tu votes Bayrou, tu votes Mius, tu votes Tambrousse, tu votes pâté, tu votes mauvais, tu votes pompette, tu votes Arlette, tu votes Propret, tu votes Boinet. La politique, ça t'intéresse, faut dire que c'est très intéressant. Y'a du pognon, y'a du business et plein d'autres trucs. Intéressant. Et même si ça ne sert à rien, tu votes parce que tu le vois bien. La politique, ça t'intéresse, le sort des Français en dépend. Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes pour le jazz manouche. Tu votes parce que c'est bien délire, tu votes que ça te fait bien rire. Tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes Le Pen, tu votes tout mou, tu votes Bayrou, tu votes pourri, votes Chibardi. Tu votes Teubé, votes Devilliers, tu votes Genot, votes Besangenot, tu votes Mémé, tu votes Buffet. Et si t'as pas le temps de lire, alors écoute cette chanson. La politique, ça te fait bien rire. Même si ça fait pas mal aux fesses. Non, ça fait...
Et si le président de la République était cash?
Oui, première question.
Bonjour, monsieur le président.
Oui.
Comment appréhendez-vous l'année à venir?
Bien écoutez, plutôt pas mal. Hein. Vous savez, j'ai un avion, j'ai un chauffeur, hein, je dors à l'Elysée, j'ai une nouvelle meuf, j'ai pas trop peur des 5 ans à venir.
Non mais pour les Français.
Ah oui, à vous ça va pas être facile. Alors, j'ai entendu apparemment qu'il y aura encore moins de travail et que vous seriez moins payé. Accrochez-vous, ça va secouer.
Et vous avez des solutions pour régler tout ça?
Pas plus qu'un autre. Ah, bon, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais vous savez, moi je suis à 15 000 euros par mois, donc vos problèmes.
Mais vous avez bien prévu des mesures pour votre quinquennat?
Non, tout ce que j'avais prévu, c'est d'arriver numéro 1, d'être au top. Maintenant j'y suis, donc on verra. Hein, moi je suis comme vous savez, j'aime les séries. Le suspense. Hein, va-t-il boucher le trou de la sécu? Ouh, le président est-il encore là? Ouh, à préparer des pop-corns, on en a pour 5 saisons. Oui, une autre question. Ah oui, la bonne.
Bonjour monsieur le président, Natacha Valuet. Avez-vous reconsidéré vos positions stratégiques et militaires dans le conflit au Moyen-Orient?
T'es bonne, hein?
Oui, mais...
Ah, appelle-moi. Bon, allez, je dois y aller parce que j'ai rendez-vous avec les écolos. Ils me font chier avec leurs armes, là.
Voilà, bon j'espère que vous avez compris qu'il faut aller voter en avril prochain. Il faut voter parce que c'est beau la démocratie représentative et c'est surtout bien mieux qu'une dictature. Il n'y a que ça de vrai et en plus des fois on nous demande notre avis en dehors des élections. Ça s'appelle des référendums. les plus jeunes ne connaissent pas, puisque le dernier a eu lieu en 2005, c'était il y a très longtemps. Mais comme les Français n'ont pas voté comme il le fallait, eh ben ils n'en font plus. Smiley de dégoûtage, les référendums.
Le peuple n'a pas en lui-même de pouvoir entre deux élections. Et il est arrivé bien des fois dans la dernière période, je pense par exemple au traité de Lisbonne, où 80% des parlementaires, donc le Parti Socialiste, de la droite de l'époque, etc., et la présidence, 80% des parlementaires soient pour un traité, que les Français votent à 55% contre. Ce qui prouve que quand il y a référendum, effectivement le peuple peut, mais ça ne peut pas être le peuple qui décide qu'il y a un référendum.
Le référendum, unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections, en tout cas sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé 4 ans plus tard. Le référendum a joué son rôle, il a participé à l'illusion de la démocratie.
Et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi ? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe ? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion.
Merci François.
Si on dit que sur les choses importantes, il ne faut surtout pas appeler le peuple à se prononcer, on appelle même ça le populisme, ça veut dire qu'en clair, on admet qu'on n'est pas en démocratie. La vraie démocratie, c'était par exemple à Athènes, dans les cités italiennes, par exemple, et c'était considéré comme ça jusqu'à Montesquieu et Rousseau au XVIIIe siècle, il n'est pas de loi légitime sans l'approbation implicite ou explicite du peuple.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Débat d'avenir. Ce soir, nous recevons Valérie Ricard-Doustinte, porte-parole de la délégation des travailleurs consentants, la DTC, ainsi que Dimitri Azedef, haut-commissaire chargé de l'énergie et du développement photovoltaïque qui représente pour sa part le parti majoritaire unifié. Face à eux, Alban Cassis, responsable de la section consensus et médiation au sein du STPC, le syndicat des travailleurs pas contents. Messieurs, pour vous, l'avenir c'est quoi ?
Créer des emplois et assurer leur maintien. L'industrie représente le grand défi de demain.
Ne restons pas dans l'illogisme, nos électeurs veulent du concret. L'avenir est fait pour voir plus loin, il nous faut du progrès.
Vu la conjoncture actuelle, il faut se préparer à l'imprévu.
Je ne crois pas qu'il soit de mise d'enlever au peuple ce qui lui est dû. Vous nous avez déjà tout pris de nos victoires, tiré profit après travail, famille, patrie, voici tomate, salade, patrie.
Laissez faire le temps, ayez confiance en nos investissements.
Mais vous êtes à l'image de vos prédécesseurs incompétents.
Mesurez vos propos, car ceci vous dessert.
Des promesses en entrée, des mensonges en effet.
Où voulez-vous en venir ?
Vous voyez ce que je veux dire.
Mais vous n'avez rien dit.
Je suis pas là pour me taire.
Mais soyons réalistes.
On va pas se mentir.
Je vais tout vous dire.
Tout de suite, après la pub.
Toi, jeune, tu n'as pas de but dans la vie ? Rejoins Cadavreski. Cadavreski, ça fait pousser la bite.
Zap, t'es pas fait pour l'inepte, t'es faux. Déléguer ta vie, inadapté, pas fou. Val ton préfet, inapté, pas fait. Oh, t'es parfait, votez, votez pour vous.
Vous êtes compris.
Tu te plains, tu te pries, rien ne te plaît.
Tu dérives,
tu t'enivres,
tu t'érèves.
Et je délivre les élèves, ton veto
dans les urnes.
À voter
pour des prunes,
amène le pire au nom du père.
Vous laissez vivre ou laissez faire.
Tu dis que ta banque t'a tout volé,
t'as l'air complètement affolé.
Tu dis que ton boss t'a bien roulé,
qu'au Pôle emploi t'es abonné.
Pas mal, j'ai ton cabriolet, les écrans plats c'est pas donné. J'ai maintenant une petite idée à quel jeu tu t'es adonné. Tu dis qu'ils viennent taper notre carte, tu dis qu'ils viennent taper notre carte. Tu dis qu'ils font des chiens en masse, en plus ils font les pierres en place. Sans eux,
pas de ménage, pas de mélange,
pas d'aménagement, pas de ménagement pour ceux qui tirent les dégagements. Prends le pouvoir, un peu pour voir, fais le pour vivre, fais le par choix, fais le faux pas. Tu te fourvoies, fais les flipper, chacun pour toi. Votez pour quoi ? Votez pour toi.
À Avant de se quitter, on va parler du plus grand parti de France, comme on le désigne souvent dans les médias. Ceux qui n'ont pas compris ou qui ont tout compris justement, ce sont les abstentionnistes, puisque voter blanc, voter nul ne sert à rien. Et bien beaucoup de gens ne se déplacent plus. Si ça vote plutôt pas mal au présidentiel, à peu près 20-30% d'abstention. Les autres élections sont boudées par près de la moitié des électeurs qui représentent quand même quelques 40 millions de personnes, voire un peu plus. En 2022, aux dernières élections législatives par exemple, c'était aux avant-dernières élections législatives, en 2017, il y avait 51% d'abstention au premier tour, 57% au second. Jusqu'en 93, les taux d'abstention à ces élections où on élit les députés étaient de l'ordre de 30%. On voit que ce parti des abstentionnistes ne fait que grandir, et encore, il y a mieux. Aux dernières élections régionales en 2021, en pleine hystérie covidique, il est vrai, 66% d'abstention, même chiffre pour les départementales. Bref, la plus grande partie de l'électorat, surtout les moins de 30 ans qui votent quasiment pas, 80% d'abstention aux dernières élections 2021, commence à se rendre compte que nos représentants sont des guignols, des mauvais acteurs d'un jeu politique qui n'intéresse plus grand monde à part les vieux scotchés sur leur téloche. Pour qui qu'on va voter pour ? Eh bah pour personne.
Autre chiffre définitif, celui du taux d'abstention. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record. Que cache-t-il ? Un divorce avec les politiques ?
Un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que les gouvernements successifs préfèrent nier.
Voici le nom.
Les résultats des élections sont toujours donnés en pourcentage de votants, en prenant bien soin d'en exclure l'abstention de manière à ne pas révéler l'ampleur de la contestation ou du désintérêt des Français.
D'autres résultats.
Attardons-nous sur un exemple récent. Les résultats officiels des législatives de 2012.
Oui, Élise, et elle concerne des personnalités politiques de premier plan. À commencer par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, est réélu. Luc Chatel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi réélu dans la Haute-Marne, vous le voyez. Attention, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, il est battu au profit du candidat UMP. Encore un résultat, celui de Stéphane Le Foll.
Maintenant, incluons l'abstention dans le résultat final.
Oui, Élise, et elle concerne des personnalités de premier plan, à commencer par Jérôme Cahuzac, qui n'obtient pas la majorité dans le Lot-et-Garonne. Luc Chatel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi battu en Haute-Marne. Il ne réunit que 32,6% des voix, insuffisant pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Dans les Vosges, l'abstention arrive également en tête. Jacques Lang et Gérard Cherpion sont donc battus. Encore une fois, pas de représentant élu pour cette circonscription. Bilan catastrophique pour ces législatives. Seulement 17 députés élus sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale.
C'est vrai que de déception en déception et d'impuissance en impuissance, c'est vrai que ce qui se développe, c'est fondamentalement l'abstention, non plus comme avant. Il y a des décennies, c'était les vieux qui s'occupaient pas trop de politique, enfin les égoïstes, ceux qui... Aujourd'hui, on s'aperçoit que la structure idéologique, politique des abstentionnistes est extrêmement politisée.
Soit je vote pour des partis de gouvernement qui vont produire les mêmes politiques, j'ai envie de dire, déterminantes sur ce qui est capable de changer le destin de la nation et les conditions sociales des gens. Ou je vote pour des partis protestataires qui certes sont clairement porteurs d'une alternative, mais qui viennent de traditions politiques qui sont quand même très ambiguës vis-à-vis de la démocratie libérale. Donc finalement, les électeurs sont face à une démocratie qui est une machine à désespérer.
Donc les gens...
Mr. President, hey, yo! Mr. President, there's the president.
L'entourloupe avec Scaramucci et le morceau Mr. President, et ben voilà, nous voilà mieux armés pour affronter ou pas les prochaines élections. Le clivage droite-gauche, les fondements historiques de notre système politique et puis les rouages de notre démocratie représentative. On termine par le lien, le parallèle, la confusion même qui est faite très souvent entre élections et démocratie. La semaine prochaine, on parlera de la droite dite républicaine. Une heure sur les Chirac, De Gaulle, Balkany, Sarkozy, Morano ou encore Pécresse, la représentante de ce courant politique aux prochaines élections d'avril prochain. Que du bonheur en perspective. C'était À la recherche du groove perdu. Ciao.
La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelidze ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais.
Notre démocratie représentative s'est muée en oligarchie financière. Elle n'est d'ailleurs pas une démocratie. Maintenant, nous le savons.
Mais c'est vrai qu'à l'école, on apprend élection égale démocratie, démocratie égale élection. Moi, quand j'étais tout petit, on m'apprenait ça. Et on me disait, on va élire tes délégués de classe parce que c'est la démocratie. Ou quand un pays changeait de régime, sortait de la tyrannie, on mettait en place des élections, on disait, il accède à la démocratie. Et donc il y a un conditionnement, quoi. Les télés en parlent, les journaux en parlent, les professeurs, moi-même, je disais, la démocratie, c'est les élections. Et donc il y a un conditionnement, mais c'est de l'intoxication, quoi.
Mais je crois que c'est. Appelle
ça démocratie, c'est une blague.
Cette confusion qu'il y a entre démocratie et élection, c'est vrai qu'on l'assimile.
Ça hein. Nous empêche
on
de.
On dit tel pays est démocratique, puisqu'il y a des élections libres. Mais je crois que c'est quelque chose qui a du poids, simplement. Qui a du poids dans la propagande qu'on en fait. Parce que les pays qui n'ont pas d'élections, effectivement, ne sont pas démocratiques. Et qu'on n'a pas de contre-exemple, par exemple, de tirage au sort, d'autres façons. Oui. On a soit des dictatures. Oui. Soit des pays qui ont des élections libres. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que c'est pareil. Il vaut mieux avoir des élections que d'avoir une dictature. Et c'est ça la force de la propagande autour de démocratie égale élection, c'est qu'il n'y a pas de contre-exemple pour le moment.
Mal élu, mais tu t'es accroché.